Vous êtes sur RTL.
À bientôt.
Docteur Jones, nous avons beaucoup entendu parler de vous.
Ah oui ?
Les nazis ont découvert Tanis.
Mais qu'est-ce que c'est que Tanis ?
C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance.
Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année.
Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt.
On part découvrir tout habillé les terres sauvages de ce monde avec notre invité Aude de Tocqueville. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. On vous a invité parce que vous publiez un livre magnifique qui s'appelle L'Atlas des Terres Sauvages, c'est chez Artaud. Et on a fait des découvertes incroyables, des lieux qui existent véritablement sur notre planète ou un peu au-dessus. On va comprendre dans quelques instants. Ils sont nombreux ces territoires qui échappent aux humains ou bien qui ont, on va dire, un fonctionnement hors du commun.
Il y en a encore, il en reste, mais oui, bien sûr de moins en moins, parce que depuis le développement du tourisme, depuis l'évolution des technologies, on peut aller toujours plus loin, toujours plus haut. Évidemment, ça se rétrécit un peu comme peau de chagrin.
Mais vous avez réussi à en collecter quelques-uns ?
Absolument, et j'ai essayé de trouver comme point commun à tous ces territoires que j'ai recherchés des histoires très fortes.
Alors, quelques lieux comme ça qu'on développe, une petite liste à la Prévert.
Dans le livre, j'ai parlé de deux sortes de terres sauvages. Parce qu'au départ, donc, je pensais vraiment parler que de désert, de montagne, de jungle. Et j'ai trouvé que ça faisait rêver, c'était poétique, mais il n'y avait pas assez de frissons. Donc j'ai décidé que terre sauvage, c'était aussi sauvage dans le sens de sauvagerie. Et donc je suis partie sur des territoires qui étaient aussi interdits à cause de conflits, de catastrophes technologiques aussi, ou à cause aussi des territoires interdits à cause de la religion. Et donc j'ai mélangé donc un peu ces territoires. Donc je pense que ça, c'est un peu l'originalité du livre. Alors pour vous donner des exemples,
allez-y.
Oui, dans les paradis, par exemple, il y a l'archipel de Saint-Brandon, au large de l'île Maurice, oui, qui est une espèce de mirage de sable, mais qui est quasiment inaccessible pour les navigateurs, parce que c'est entouré de récifs coralliens très, très dangereux.
Et puis un exemple à New York, en trois mots.
Les souterrains de New York.
Eh ben voilà, les hommes taupes, voilà ce qu'on va découvrir dans un instant sur RTL. 30 000 personnes, ça semble incroyable, et pourtant c'est vrai, qui vivent dans les entrailles et les souterrains de New York. À tout de suite sur RTL.
Un opérateur 19. RTL.
De 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Après le disque, on part vous faire découvrir les terres sauvages de notre planète, un cimetière spatial, les entrailles et les souterrains de New York et même l'île la plus hantée au monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes extraordinaires, mes fils. Ce monde n'a jamais connu d'être tel que vous. Vous devez rester à l'abri dans le monde d'en bas.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Oh ouais, bienvenue dans mon terrier, beauté.
Où on est?
Ici, c'est notre forteresse de solitude.
Notre poudlard.
Notre batcave, dernier cri.
Oh, on est dans les égouts, c'est ça?
On croyait que c'était une fiction, comme dans Tortue Ninja, où des humains ou même des animaux vivaient dans les entrailles de New York. Et on va découvrir avec notre invité Aude de Tocqueville que, eh bien non, c'est une terre sauvage réellement habitée par des humains. Vous êtes écrivain, auteur, et vous nous emmenez comme ça combien de mètres sous terre à New York et pour découvrir quel peuple, quelle population ?
C'est assez terrifiant, effectivement. Sous la ville de New York existe une véritable ville d'à peu près 30 000 personnes, mais on ne peut pas totalement comptabiliser ces gens, qui vivent dans l'obscurité, dans une profondeur qui va de 7 à 12 niveaux sous la terre, qui vivent dans des stations de métro désaffectées, des égouts, des tunnels, des anciennes carrières. C'est un truc incroyable. Et ce sont des gens qui, à partir des années 70, étaient rejetés en fait, par la société new-yorkaise.
Mais 30 000 personnes, ça veut dire...
C'est une petite ville, en fait.
Combien de kilomètres de souterrain on a pu évaluer
Ça s'étend du Riverside jusqu'à tout en dessous de New York.
On n'a pas pu calculer.
Absolument pas. Ouais. Et c'est à partir des années 70, c'est des mafieux, des junkies, des malades mentaux, beaucoup de vétérans de la guerre du Vietnam qui n'ont pas su se réinsérer dans la société à la fin de la guerre. Et c'est quelque chose de totalement terrifiant parce qu'évidemment, c'est pas un endroit très sécur.
Est-ce qu'on sait comment cette ville sous la ville, de Tocqueville, s'est organisée? Qu'est-ce qu'on sait sur qu'il y a des communautés? Est-ce qu'ils sont organisés? Il y a des écoles pour les enfants ou un apprentissage, des mini-supermarchés? Enfin, j'essaie d'imaginer
pas du tout.
Une société organisée.
Oui, c'est une ville hiérarchique. Il y a une hiérarchie, mais dans la violence et dans la peur. Alors, et on dit qu'il y a une école, mais il y a des gens qui doivent donner des cours aux enfants.
Il y a des enfants.
Mais oui, bien sûr, il y a des enfants. C'est une société qui a peur de l'extérieur, qui a peur d'aller en surface, parce qu'elle a été, c'est une population qui a été rejetée par la surface à un moment donné de son existence. Et ce qui est tout à fait terrible, c'est que ces gens-là ont une espèce de vertige des profondeurs, se sentent plus en sécurité là où ils sont, c'est-à-dire sous la terre qu'à l'extérieur.
Mais
c'est dingue.
Comment font-ils de Tocqueville? Vous racontez cette histoire dans l'Atlas des Terres Sauvages publié chez Artaud. Comment font-ils pour se nourrir? Il faut bien qu'ils remontent à un moment, quoi.
Bien sûr. Alors, il y a un système de coursiers, c'est pour ça que c'est assez organisé quand même, qui sont des gens qui, à intervalles réguliers, viennent en surface pour aller acheter de la nourriture qu'ils rapportent dans les sous-sols.
Est-ce qu'à une époque de l'existence de ces hommes taupes, comme on les appelle, hommes, femmes, enfants taupes, on a cherché, je ne sais pas, à bloquer les accès pour nettoyer un peu la ville? Ça se fait régulièrement. J'imagine que le maire de New York n'a pas dû tolérer cette situation.
Absolument, c'est ce qui s'est passé. Alors d'abord, il y a une écrivaine américaine qui a sorti un livre en 93 qui a révélé aux New-Yorkais l'existence de, ces entrailles, de ces gens qui vivaient dans les entrailles de leur ville. Et dans les années 2000, le maire de l'époque, Giuliani, a essayé de fermer les entrées de stations de métro, d'enlever les bancs publics dans les parcs. Et ça a fait empirer le phénomène, en fait, parce que les sans-abri qui étaient encore à l'extérieur se sont mis encore plus dans les profondeurs.
On a du mal à l'imaginer dans quel état d'insalubrité vivent ces populations sous New York.
Ah mais c'est terrible, parce qu'il y a les rats, il y a la drogue, donc l'insécurité physique et mentale, il y a des maladies qui se propagent, et il y a des ONG qui ont essayé de résoudre le problème, mais 30 000 personnes, c'est quasiment impossible.
Ça veut dire que oui, il y a des organisations caritatives qui s'occupent quand même, qui prennent soin de ces gens?
Qui essayent. Mais apparemment, c'est un travail tellement colossal.
Alors dans un instant, un autre voyage, une autre terre sauvage, c'est incroyable. On va découvrir un cimetière spatial. On l'appelle le point Nemo. On dirait un film de science-fiction et pourtant, ça existe. Restez avec nous les curieux sur RTL.
Moi, ouais, ça place.
RTL.
Nous voici avec Patrick sur les terres mongoliennes. Il est déjà ému et a envie de pleurer. C'est le moment de rencontrer la famille qui va nous accueillir durant ce périple extraordinaire.
La curiosité est un vilain défaut.
T'es là. Je te cherchais.
Ouais. Et on se casse.
Sidonie Bonnec.
J'ai adoré cette rencontre. Ça m'a bouleversé.
Thomas Hugues.
Je t'attends dans l'avion.
Parodie de rendez-vous en terre inconnue par le Palmacho. Nous, on découvre de vraies terres sauvages. L'Atlas des terres sauvages, c'est le thème de notre curiosité, le titre du livre de notre invité, Aude de Tocqueville. C'est publié chez Artaud. Vous nous avez embarqué dans les entrailles de New York avec ces hommes taupes, ces familles entières, 30 000 personnes qui vivent jusqu'à une dizaine de niveaux souterrains en dessous de New York. Et là, on va découvrir un cimetière spatial. C'est le Point Nemo. Où se situe-t-il déjà?
Le Point Nemo se situe au cœur du Pacifique Sud, entre, en gros, à l'ouest du Chili et à l'est de la Nouvelle-Zélande. Mmh. Alors, vous dites point, en fait, c'est plutôt une immense zone qui fait 22 millions de kilomètres carrés et qui est éloignée. C'est le lieu le plus isolé du globe.
En fait, on n'est pas dans les mers, là, on est dans l'espace, c'est ça?
Pas du tout. Vous êtes au milieu du Pacifique.
Ah, donc, j'ai pas compris. C'est des satellites qui sont tombés dans l'eau ou
tous
qui
les
sont
satellites
au-dessus
du monde entier ont été programmés pour finir leur vie dans ce point Nemo, dans cette zone immense qui se trouve sur le lieu le plus éloigné du globe.
Alors pourquoi on a choisi cet endroit, le point Nemo?
Parce que justement, il faut 15 jours de bateau pour l'atteindre de la première terre émergée. C'est un milieu très hostile, il y a très peu de faune et de flore, souvent des tempêtes. Donc, dans les années 70, les autorités spatiales se sont dit que c'était un lieu pour... ça fait un peu peur, hein, mais donc, un lieu pour faire abîmer tous les engins spatiaux. C'est vraiment un cimetière marin d'engins spatiaux.
Et donc, il tombe évidemment au fond du Pacifique à cet endroit-là. Est-ce qu'on a pu évaluer combien d'objets ou d'engins spatiaux se sont échoués, si j'ose dire, au point Nemo?
Absolument, entre 250 et 300, parce qu'il y a les satellites, les plateformes de satellites, tout débris spatial a été programmé pour...
Bonjour la pollution, hein.
c'est pas très écolo, bon, mais je trouve ça assez poétique, cette histoire.
Il y a notamment dans ce point Nemo et ce cimetière sous-marin et spatial, la station soviétique Mir. Qu'est-ce qui lui est arrivé en 2001?
Alors, comme les autres, rien de spécial, mais surtout, on en a beaucoup parlé. Donc, elle s'est abîmée en mer dans le point Nemo.
Ouais.
Mais on en a beaucoup parlé parce qu'elle pesait 120 tonnes, ce qui est absolument énorme. Pour vous donner une échelle de valeur, l'année dernière, en novembre 2018, il y a une station chinoise qui s'est abîmée aussi au point Nemo et faisait déjà 8 tonnes, ce qui était déjà énorme.
Et c'est aussi un point, le point Nemo, qui alimente, j'imagine, tous les fantasmes, les légendes, puisqu'on ne peut pas vraiment y plonger. Il y a peut-être des secrets industriels. C'est quoi les légendes autour de ce point Nemo?
Alors exactement, mon fils, qui est assez geek, me dit « mais je connais très très bien le point Nemo ». Alors d'abord, il a été baptisé Nemo parce que c'est le héros de Jules Verne, 20 milieux sous les mers.
Ça ne veut dire personne,
personne
Nemo, c'est ça?
Absolument. Et puis aussi, il y a eu des histoires, parce qu'en 1997, il y a l'Agence américaine d'observation maritime qui a entendu un bruit très très fort, très saisissant, qu'elle a baptisé le bloop. Je ne sais pas
le
si
bloop.
Ça vous dit quelque chose.
Non,
mais
c'est quoi?
C'était vraiment, tout de suite, il y a eu plein de rumeurs. Et les gens disaient que c'était un monstre marin encore plus gros que les baleines bleues, c'était des extraterrestres, mais on ne savait pas d'où venait cet énorme bruit qui un jour a vibré dans cette zone. Et là, il y a eu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lovecraft, c'est un écrivain qui fait du fantastique et qui a écrit un livre à partir de ça qui s'appelait L'appel de Cthulhu, quelque chose comme ça. Si vous avez des enfants qui ont 20 ans, ils connaissent tous. Parce que il y a qu'est-ce qu'il y a, Call of Duty,
World of Warcraft,
ils sont inspirés de ça,
du point Nemo et de ce bloop qui était complètement mystérieux.
Parce qu'on peut pas y plonger. J'imagine les chasseurs d'épaves, ça doit inspirer des plongeurs d'aller découvrir.
Non. Personne ne passe, sauf le Vendée Globe. Et attention, quand il y a un pays qui veut lancer son satellite dans le point Nemo, il faut qu'il avertisse tout le monde. Et là, dans ces cas-là, on écarte les bateaux de cette zone qui fait quand même... C'est plus grand que l'ex-URSS, 22 millions de kilomètres carrés.
C'est la poubelle du ciel, c'est assez étonnant.
C'est exactement la poubelle du ciel.
Ouais. Et d'ailleurs, coup de chapeau aux ingénieurs de l'Agence spatiale européenne et du CNES, puisqu'il y avait un lancement parti de Kourou aujourd'hui avec des satellites français, notamment un satellite qui s'appelle Khéops. Bravo à celles et ceux. Il y a des nanosatellites aussi qui sont partis grâce à des étudiants encadrés par le CNES qui les ont conçus. Bref, voilà, c'est l'intelligence.
Vous pourrez faire une curiosité sur les satellites.
C'est l'intelligence à la française. On est d'accord. Bonne idée. On continue de raconter l'histoire de cette terre sauvage.
Et pour vous récompenser, l'île de Povelia, c'est à Venise. Et on dit, la légende dit que c'est l'île la plus hantée au monde. Ça donne envie de la découvrir.
C'est sympa comme récompense, ça.
Vous connaissez? Restez avec nous, les curieux, sur RTL.
Les valises, on est si bien.
I-L-E, île. Et l'île est réelle.
T'es sérieux, là? T'es pas en train de me faire marcher?
Non, c'est ce qui est écrit, l'île est réelle.
Oh non, c'est pas vrai. J'arrive pas à croire que quelqu'un ait trouvé l'île.
Thomas Hugues.
Quelle île?
Sidonie Bonnec.
Mais c'est quoi ces chiffres?
Les coordonnées, longitude et latitude.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui nous conduit quelque part...
Sur RTL.
On est passionné par les voyages au centre de la Terre, autour de la Terre, avec l'auteur et écrivain Aude de Tocqueville. On a découvert avec vous le point Nemo, cœur du Pacifique, un endroit où s'abîment tous les satellites, stations spatiales en déshérence, voilà, vont sombrer là. On a découvert aussi les hommes, femmes et enfants taupes dans les entrailles de New York. Et maintenant, puisqu'on n'a pas eu assez peur, on part découvrir ce qu'on appelle l'île la plus hantée au monde. Et alors, étonnamment, on part à Venise. Moi, je croyais que c'était le summum du romantisme, Venise. Quelle est cette île qui fait si peur?
C'est une île qui s'appelle Povelia et qui se trouve au large du Lido, donc pas si loin de la place Saint-Marc bourrée de touristes, et qui fait 7 hectares, donc c'est pas si grand non plus, mais ça m'amusait d'en parler parce que le contraste est saisissant. Vous partez de la place Saint-Marc avec plein de monde, vous prenez un bateau, vous faites 15 minutes de bateau dans la lagune, c'est magnifique, et vous arrivez sur cette île où on voit un bâtiment qui émerge des broussailles.
Et qui est abandonné, en fait.
Il a été abandonné depuis les années 68. Et quand je dis vous, surtout, vous ne le faites pas, parce qu'on n'a absolument pas le droit. C'est une île totalement interdite. J'ai dû soudoyer un jeune vénitien. Il avait peur.
Bravo,
parce que si la police fluviale l'interceptait, on avait une grosse, grosse amende.
Donc c'est une île aujourd'hui interdite. C'est-à-dire donc déjà, pour la légende, ça...
C'est bien, ça alimente la légende. Et de quand date-t-elle, cette légende de l'île hantée de Povelia?
Du XVIIIe siècle. Oui. Parce qu'au XVIIIe siècle, on a construit un hôpital et tout de suite un lazaret, en fait, qui était pour les navires qui arrivaient de loin et qui pouvaient apporter la peste. Enfin, les équipages, ils étaient en quarantaine sur cette île. Et très vite, la rumeur a couru qui disait qu'il y avait 160 000 personnes qui étaient mortes, qui avaient été incinérées dans cet hôpital, ce qui était complètement faux. Ensuite, on a dit que l'hôpital était psychiatrique et que le médecin faisait des lobotomies sur les patients parce que les patients disaient avoir vu des fantômes, les fantômes des gens de trois siècles plus tôt au 18e, parce que là je vous parle de 1920, l'histoire du médecin. Donc les chasseurs de fantômes anglo-saxons, notamment, je crois qu'ils aiment beaucoup les fantômes, en ont fait toute une histoire. Et en 68, l'île a été... Enfin, l'île, on voit vraiment... aujourd'hui, c'est une jungle, et avec juste un énorme bâtiment, avec un campanile.
Et qu'est-ce que c'est un campanile ?
Un campanile, c'est un clocher.
Oui.
Ouais. Et un four crématoire, où ça, c'est vrai que quand il y avait... Bon, paraît-il qu'il y a eu quand même des gens qui ont atteint de la peste, qui ont été incinérés là.
Mais on a du mal à l'imaginer quand on n'est pas allé à Venise, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'îles. Et ce que moi, je me dis, mais une île comme celle-là, elle doit valoir beaucoup d'argent. On pourrait y avoir des projets immobiliers, j'en sais rien, un hôtel de luxe.
Un club de vacances.
Non mais voilà, il y a tellement de touristes à Venise que...
Tout à fait raison, parce que c'est vrai que Poveglia, c'est la seule, il y a 118 îles sur la lagune, c'est la seule qui est abandonnée. Les autres, effectivement, sont soit inhabitées, soit, comme vous dites, un hôtel, il y a des hôtels, un cimetière aussi, une île avec des centres d'art.
Les mètres carrés sont rares et donc chers à Venise. Donc,
Et justement, en 2014, le gouvernement italien, qui appartient à cette île, a voulu la vendre. Le Club Med était intéressé. Et tout de suite, les Vénitiens ont dit « Ah non, 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 il y en a marre de ce tourisme, enfin de ces gens qui vont investir nos îles. » Et ils ont créé une association, Poveglia Bertuti. Et après, ça a été revendu. Enfin, ça a essayé l'association a essayé de l'acheter, mais n'a pas pu. Le gouvernement a réessayé de le vendre. Enfin, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, le destin de Poveglia n'est pas encore trouvé, ça c'est sûr.
Quelle histoire. Une dernière histoire de Terre Sauvage avec vous, Aude de Tocqueville. Je rappelle que vous publiez Atlas des Terres Sauvages aux éditions Artaud. C'est un no man's land. On est entre Israël et les territoires palestiniens. Vous nous décrivez cet endroit incroyable ?
On parle souvent de la zone d'exclusion des deux Corées, qui paraît dans ce livre aussi. Mais
à la frontière des deux Corées,
oui. Mais on parle beaucoup moins de ce bout de terre qui fait 2 km de large et 320 km de long, entre ce qu'on appelait le mur de la honte, le mur de séparation entre Israël et la Palestine, et la ligne verte et la frontière. Et des hommes vivent là. Et grâce à un ami architecte qui va souvent en Israël, j'ai repris ce nom, je l'ai appelé le troisième pays. Et c'est tout à fait émouvant.
Il y a beaucoup de gens qui sont installés là ?
Pas beaucoup, mais ce sont des bouts de terre qui appartenaient aux Palestiniens avant 1947. Donc il y a eu vraiment, et quand le mur a été construit, c'est quand même un endroit qui est très sauvage.
Et pourquoi c'est émouvant comme lieu de Tocqueville ?
C'est émouvant parce que vous connaissez l'histoire d'Israël et de la Palestine, c'est ça.
Quel est le lieu qui vous tient le plus à cœur parmi ces terres sauvages ? Est-ce qu'il y en a eu, il nous reste une minute, une autre histoire à raconter ? Il ne faut pas passer à côté.
Pour faire frissonner, mais je suis allée dans le Roub al-Khali, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un immense désert entre l'Yémen et l'Arabie Saoudite. Et c'est extraordinaire parce que c'est un désert qui tombe dans la mer. Et quand vous voyez, c'est formidable. Et oui, pour donner des petits frissons, quand le chauffeur qui m'accompagnait avait toujours un pistolet à côté de son volant, parce qu'on ne sait jamais les rencontres qu'on peut y faire, mais c'est un endroit magique. Enfin,
c'est
si
comme une dune, c'est ça qui tombe
Une succession de dunes, mais c'est tellement immense qu'on est ailleurs, le vent, le silence.
Et vous avez croisé des nomades dans ce désert ?
Pas quand j'y suis allée, non.
Et il y en a ?
Très peu, de moins en moins. Il y en a eu beaucoup, mais maintenant les nomades se sont sédentarisés.
Et donc le pistolet n'a pas servi. Il paraît, dernier mot, que j'ai pas eu la chance d'y aller, mais que les couleurs dans le désert, c'est quelque chose de particulièrement magique. Vous l'avez vécu,
Le ciel. Le ciel, oui, c'est sublime. Oui, absolument.
Plein d'autres histoires, Haute de Tocqueville, excusez-moi, à découvrir chez Artaud dans votre très bel atlas des terres sauvages. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Et si vous avez raté le début de l'émission, on... Ah oui.